le sort des femmes subit une profonde évolution. Depuis une ou deux générations seulement, et spécialement depuis la guerre, les femmes, poussées par les nécessités économiques, ont pénétré dans toutes les branches de la production, dans tous les rouages de la répartition.
Aujourd'hui, Jonathan Thomas va nous parler de la maison de disques ERSA, affiliée au Parti Socialiste, et qui a créé le premier et le plus important catalogue de disques politiques des années 1930. Avec ça, nous gagnerons plus d'une bataille. C'est le titre d'un article publicitaire pour les disques ERSA, publié dans le quotidien socialiste Le Populaire en 1932. C'est un titre quelque peu guerrier pour désigner des disques de propagande, non ?
Oui, tout à fait. C'est en effet un titre aux accents militaires qui évoque la conquête, mais ne dit-on pas, d'une campagne électorale, justement, que c'est une campagne. Et ce ton-là est plus particulièrement lié à la position d'ERSA, donc, et de la SFIO, donc du Parti Socialiste, au début des années 30, au moins dans le champ de la propagande sonore, puisque ERSA est présentée comme étant une entreprise d'avant-garde. Et elle peut l'être parce qu'elle est véritablement la première à baser une part importante de la propagande d'un parti sur le disque. Et elle s'acquitte de cette tâche en éditant son catalogue avec un grand soin. C'est un catalogue qui est également soutenu par une intense campagne de publicité publiée dans Le Populaire, qui est donc le principal journal quotidien socialiste. Une campagne qui est publiée donc de la fin des années 30 à l'été 1932. Et au moment en fait, où est lancé ERSA, c'est-à-dire en janvier 1930, le Parti Socialiste est bien le seul parti en France à disposer d'une offre structurée de disques pour sa propagande. Alors comme le disque est généralement perçu comme un objet scientifique, une sorte d'incarnation de la modernité, la SFIO peut se revendiquer par le disque comme étant un parti d'avant-garde, comme étant un parti qui a une longueur d'avance, et donc, on va dire, une puissance plus grande, un rapport à son époque et au progrès technique peut-être plus harmonieux que les autres partis français de cette période. Et la SFIO, elle doit cet avantage stratégique que d'autres partis, comme le Parti Radical, par exemple, lui envie, aux deux initiateurs d'ERSA, qui sont Jean Loris, Jean Loris, c'est le pseudonyme de Léon Leroy, et Adéoda Compère-Morel.
Et alors, qui sont ces deux personnes ?
Alors, Jean Loris et Compère Morel se connaissent depuis longtemps, puisqu'ils ont travaillé tous les deux ensemble pour la propagande du parti depuis le début des années 10. Alors, dès le début du XXe siècle, Compère Morel, pour sa part, lui, se fait une spécialité de la vente de brochures socialistes. Il avait intérêt à être spécialiste de cette propagande, puisqu'à l'époque, les délégués à la propagande du parti, comme lui, étaient rémunérés justement par la vente de ces brochures. C'est donc quelqu'un qui sait très bien marier le commerce à la politique et qui sera à l'origine de la mise en vente notamment d'un apéritif, qu'il appelle le Popu, et d'un champagne, qu'il appelle le Soleil d'Or, dont les bénéfices doivent venir soutenir les finances du Populaire, journal donc dont il assure la direction à la fin des années 20. Et donc, au moment de la sortie des premiers disques ERSA, Compère Morel est le directeur du Populaire, et nous reparlerons de cette association un peu plus tard dans ce podcast. Jean Loris, quant à lui, il sort en 1929 tout juste d'une expérience de 6 ans comme patron d'une entreprise baptisée Sciences Nouvelles et ses applications pratiques, donc SNAP, et qui s'occupe notamment de vendre des postes de radio de sa propre conception. Alors, ce sont des postes qui sont assez réputés pour leur performance, qui ont battu un ou deux records du monde en ce qui concerne la distance d'émission et de réception. Donc, dans le même temps, Jean Loris s'implique aussi dans le champ culturel de la radio et il participe notamment au jury d'un concours rassemblant Jacques Copeau, Gabriel Fauré, Émile Vuillermoz. C'est aussi quelqu'un qui a une grande expérience de journaliste et c'est donc enfin une personne qui s'intéresse à la fois à l'aspect technique et aux usages sociaux de la radio et qui s'intéresse donc aux moyens modernes de transmission et de diffusion du son. Donc quand on pense à ERSA par rapport à ces deux personnages, on voit qu'il existe en quelque sorte une continuité avec d'une part un accent porté sur la façon de commercialiser les disques et d'autre part le souci de proposer de bons enregistrements qui pourraient former une offre parfaitement claire et finement structurée. Et c'est ce que fera ERSA avec quatre séries qui ont chacune un rôle particulier à jouer dans la propagande socialiste.
Justement, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu plus ces quatre séries de disques et le rôle qu'elles sont censées tenir dans le dispositif de propagande socialiste ?
Alors, la première de ces séries, c'est La Voix des Nôtres. C'est une série qui est enregistrée à la fin de 1929 et qui est lancée en janvier 1930 à la suite d'une souscription réalisée dans le Populaire notamment. À la fin de 1929. Et donc c'est une série qui se compose d'une dizaine de disques de discours qui sont prononcés par de grands orateurs socialistes comme Léon Blum, Paul Faure, Vincent Auriol, Joseph-Paul Boncour. Et on trouve également dans cette série la première oratrice du disque politique des années 30 en la personne de Suzanne Buisson. Dans cette série, il y a également deux disques de témoignages de Compère Morel et de Pierre Renaudel, qui sont d'ailleurs un peu deux ennemis, deux adversaires au sein du parti. Et chacun d'entre eux témoigne respectivement des derniers instants de Jules Guesde pour Compère Morel et de Jean Jaurès pour Pierre Renaudel. Alors ces deux disques, et surtout celui par lequel on entend Renaudel témoigner de l'assassinat de Jaurès, sont très utilisés pendant des moments de commémoration. Pour les autres disques, il s'agit de disques qui servent à la propagande éducation du Parti Socialiste, c'est-à-dire à des disques qui vont servir à provoquer l'adhésion des militants les amenant à connaître et à comprendre de façon éclairée la doctrine et l'histoire du Parti Socialiste. C'est donc une adhésion qui passe aussi par un examen critique, éventuellement de la part des militants ou des futurs militants, de ce qu'ils auront entendu sur les disques. Donc la deuxième série que publie RSA quelques mois après La Voix des Nôtres s'intitule « Les chants du monde du travail ». Et là, plus de discours, il s'agit d'une série d'une quinzaine de disques qui proposent des chants qui appartiennent à l'histoire du mouvement ouvrier et du socialisme, avec également quelques chants de la Révolution française et quelques chants pacifistes. Donc avec cette série-là, il s'agit d'instruire les militants de l'histoire du socialisme par la chanson, mais aussi de faire en quelque sorte ce que visait la série des disques socialistes ABGA de 1909, dont on a parlé dans un autre podcast, c'est-à-dire de populariser ces chants, d'imposer des chansons, d'imposer leur esthétique pendant des rassemblements militants ou pendant les loisirs, à la place d'autres chansons considérées comme plus légères et donc comme pas du tout politiques et éventuellement nuisibles. Troisième série, La Voix du Travail, qui rassemble une dizaine de disques de discours enregistrés cette fois par des cadres de la Confédération Générale du Travail, donc la CGT. Cette série syndicaliste est un peu à part des trois autres, puisqu'elle représente en quelque sorte une tentative de séduction de la SFIO envers les militants de la CGT par le moyen du disque, dont on a dit tout à l'heure qu'il avait en politique le prestige et la puissance de séduction de l'avant-garde. Enfin, dernière série publiée en 1931, la série Hier et Demain, qui propose une vingtaine de disques et qui est, elle, finement structurée en sous-séries, voire en sous-sous-séries, avec des thématiques sur l'école laïque, les ancêtres et les martyrs du socialisme. Donc il est question par exemple de la Commune ou de Jean Jaurès. Il est question également de l'histoire du parti, notamment des premières internationales, de la guerre et de ses horreurs, du futur utopique que promet le socialisme. Et par cette série, il s'agit de s'adresser en premier lieu à la jeunesse. Et la méthode choisie est assez originale, puisque l'argument publicitaire de cette série est que ces disques proposent d'un côté une phase de discours et de l'autre côté une phase de musique qui a été choisie pour illustrer le discours. Donc avec cette série, on fait face à une tentative, d'une certaine façon à distance, d'esthétisation de la politique. Donc si ce procédé sera utilisé un peu plus tard dans certains disques communistes, c'est la première fois qu'il est utilisé pendant les années 30 et qu'il est exposé dans une publicité comme un argument de vente et d'efficacité de la propagande sonore.
Et en conséquence, comment doit-on utiliser ces disques ?
C'est assez simple. Si on suit les publicités parues dans le Populaire, il faut les utiliser absolument partout et tout le temps. C'est-à-dire dans les réunions politiques, entre amis, en famille, pendant les vacances, pendant les loisirs. Dans le Populaire, on insiste particulièrement sur la diffusion des disques socialistes en milieu rural. Par exemple, on publie un récit éventuellement fictif d'une réunion à la campagne, totalement réussi, etc. Et Compère Morel pense même alors à faire enregistrer des discours par des militants locaux pour ne pas trop pâtir d'un centralisme parisien, puisque ces disques sont quand même produits depuis Paris et depuis les instances dirigeantes du parti. Il faut dire que quelques mois après le lancement d'ERSA, le Parti radical réfléchit à se doter de sa propre maison de disques politique, puisque ses cadres ont remarqué que la SFIO avait gagné un nouveau public dans des régions reculées de France. Par ailleurs, ERSA, c'est la maison de disques politiques des années 30 qui a le plus fléché les usages de ces disques. Outre des conseils pour bien les utiliser, bien les conserver, elle fait aussi publier des programmes discographiques pour construire tout le déroulé d'un rassemblement sur les disques ERSA. Un déroulé qui est quand même agrémenté de quelques passages d'orateurs qui donc prononcent des discours en direct. Compère Morel conseille aussi l'usage de ces disques en relation avec des appareils de projection d'images fixes, en attendant de pouvoir utiliser le cinéma dans les réunions socialistes, puisque le cinéma est encore assez cher et donc assez difficile à mettre en œuvre pour un parti qui a des moyens en fin de compte limités. Enfin, puisqu'on évoque les interactions entre le disque et d'autres médias dans ce qu'on pourrait appeler des dispositifs de propagande, il faut préciser que la vente des disques ERSA a permis de soutenir les finances du populaire, qui n'étaient pas toujours très bonnes, et que le rôle du disque était donc aussi de rapporter de l'argent pour maintenir le dispositif de propagande socialiste.
Alors jusqu'ici, vous nous avez surtout parlé d'ERSA pendant le début des années 30. Mais que s'est-il passé pour cette maison de disques par la suite ?
Oui, en effet, les quatre séries dont je vous ai parlé sont toutes sorties en 1930 et en 1931. En fait, Jean Loris avait, dès les débuts d'ERSA, imaginé les bases, une sorte de plan de développement de son entreprise vers d'autres organisations politiques, comme la CGT ou le Parti radical, vers aussi d'autres titres de presse que le populaire et pour aborder d'autres thématiques politiques que le socialisme, mais tout en restant à gauche, hein, néanmoins. Cependant, la mort de Jean Loris en 1932 stoppe net le développement du catalogue ERSA, puisque seulement quelques disques seront publiés en 1934 et 1935 pour enrichir la série La Voix des Nôtres, qui est entre-temps devenue emblématique du disque socialiste. ERSA fait ensuite faillite à l'été 1935, mais cependant l'histoire du disque socialiste n'est pas finie, puisque sa publication continue, et que le catalogue ERSA sera repris sous le nom de La Voix des Nôtres, justement, et que ce catalogue sera considérablement enrichi en 1936, quand le Front Populaire est au pouvoir avec Léon Blum, comme chef du gouvernement, et il sera question précisément de ce nouveau catalogue dans un autre podcast de cette série.
La base de données PS2X est soutenue par le DIMPAMIR et la région Île-de-France. Elle est réalisée au Centre de recherche sur les arts et le langage, un laboratoire du CNRS et de l'EHESS, en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et le laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes.